VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gabi Dorsil et Tatiana Mosso, bonsoir et bienvenue dans cette édition du mardi 19 juillet 2016 à la une ce soir.
Au Mali, des militants ont pris le contrôle d'une base de l'armée malienne dans la ville de Nampala, dans le centre du pays.
En Syrie, les raids de la coalition ont fait des dizaines de morts aujourd'hui parmi les civils à Alep.
États-Unis, suite de la convention du Parti républicain à Cleveland, dans l'Ohio.
Après les perturbations causées par des délégués anti-Trump et les accusations de plagiat visant Melania Trump, on attend ce soir l'investiture officielle de Donald Trump comme candidat à la présidentielle du 8 novembre.
Ne manquez pas les dossiers du jour en seconde partie d'émission et bien sûr l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Des hommes armés non identifiés ont attaqué ce mardi le principal camp militaire de Nampala, une localité du centre du Mali. L'attaque n'a pas été revendiquée. Et quel en est le bilan? Kassim Traoré à Bamako.
Nampala est une localité malienne située à la frontière Mali-Mauritanie. C'est dans cette localité, située à quelques 500 km de la capitale malienne, que se trouve le poste le plus avancé de l'armée malienne dans la région de Ségou. C'est ce poste qui a été attaqué par des assaillants lourdement armés. Après quelques heures de combat, l'armée malienne se replie à 80 km, plus précisément à Djabali. Les assaillants ont occupé la ville, le temps de ramasser leurs corps. Ils ont pris aussi quelques armes avant de mettre le feu au reste. Selon les notables de Nampala, les assaillants ont perdu environ une trentaine d'hommes. Du côté de l'armée malienne, 11 corps ont été identifiés, 22 blessés et une dizaine portés disparus. L'attaque de Nampala a été revendiquée par l'Alliance pour la sauvegarde de l'identité peul et la restauration de la justice au Mali. Une alliance que dirige Bekay Sidi Cissé, un groupe armé créé il y a de cela un mois. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
À l'est de la RDC, 10 civils ont été tués lors de nouveaux affrontements intercommunautaires dans une localité de l'est de la République démocratique du Congo, en proie depuis des mois à de vives tensions, a-t-on appris mardi de sources militaires. Kibiridzi est une localité du Nord Kivu. La société civile de cette ville avance, elle, un bilan de 8 morts et son président Gaston Kakule accuse les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, très actifs dans ce territoire, d'être les auteurs de ces tueries.
Et quant aux élections en RDC, quant à ces élections, un des opposants les plus en vue en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, est prêt à participer à un dialogue national pour décrisper la situation politique alors que la présidentielle censée avoir lieu cette année est improbable, a annoncé aujourd'hui, plutôt hier, son entourage.
Soudan du Sud, des milliers de personnes fuient chaque jour le pays pour trouver refuge en Ouganda, alors que la situation reste volatile dans la capitale sud-soudanaise Juba, théâtre de récents combats, a affirmé mardi l'ONU.
Et les Nations Unies ont indiqué avoir reçu des informations sur des viols de civils commis par des soldats sud-soudanais près d'une base de l'ONU à Djouba, la capitale du Soudan du Sud.
En Algérie, la justice algérienne a prononcé lundi des peines d'un an et de 6 mois de prison avec sursis au procès de la chaîne de télévision privée KBC. La justice a estimé que les conditions de réalisation de 2 émissions satiriques à grand succès n'étaient pas conformes à une autorisation de tournage délivrée par le ministre de la Culture. La défense a accusé le gouvernement d'avoir fabriqué le dossier d'accusation.
Au Zimbabwe, le pasteur à la tête de la Fronde citoyenne contre la crise économique appelle à escalader le mur de la peur, ses propres mots, contre le régime autoritaire de Robert Mugabe. Eddy Issango.
Les désormais célèbres pasteurs Evan Mawarire lance l'appel depuis l'Afrique du Sud voisine. Mais il dément avoir fui son pays après avoir appelé à des grèves et à des manifestations contre les régimes autoritaires de Robert Mugabe. Les pasteurs affirment plutôt être allés discuter avec la diaspora constituée des millions de Zimbabwéens réfugiés au pays de Mandela en raison de la répression et de la crise économique qui perdure depuis le début des années 2000 au Zimbabwe. Pour les pasteurs Mawarire, les Zimbabwéens ont commencé un voyage que personne ne peut stopper. Personne n'aurait pu imaginer la tournure des événements, affirme-t-il, soutenant sans appartenir à aucun parti politique, s'être donné pour mission de continuer à réveiller les citoyens. Au Zimbabwe, dirigé depuis 1980 par l'autoritaire Robert Mugabe, les voix discordantes se font rares ou disparaissent, comme les militants des droits de l'homme Itai Dzamara, dont personne n'a de nouvelles depuis mars 2015.
En Afrique du Sud, les participants à la 21e conférence internationale sur le sida qui s'est ouverte lundi ont mis en garde contre le risque de voir anéantis les progrès durement acquis ces dernières années dans la lutte contre la maladie, faute notamment de fonds suffisants. On fait le point avec John Lyndon.
Michel Sidibé, le directeur de l'ONU SIDA, n'a pas masqué ses inquiétudes à l'ouverture de la conférence de Durban. « Pour la première fois, je vois une baisse dans le financement des pays donateurs dans la lutte contre le sida », a-t-il déclaré. « J'ai peur parce que je vois plus de jeunes femmes infectées », a-t-il poursuivi. 36 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour réaliser l'objectif fixé par l'ONU SIDA de traiter 90% des patients infectés d'ici 2020, ou mieux, celui fixé par l'ONU, à savoir mettre fin au sida d'ici 2030. Pour l'heure, quelques 2,5 millions de personnes sont infectées chaque année. 38,8 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2015 contre 28 millions en 2000. Après un pic de 1,8 million en 2005, les décès dus au sida ont baissé à 1,2 million en 2015, notamment grâce à l'intensification des traitements antirétroviraux et à la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. L'UNICEF regrette toutefois que le sida reste jusqu'ici la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique. En 2015, 41% des séropositifs recevaient des traitements antirétroviraux, selon une étude publiée ce mardi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nigeria, 2 millions de personnes menacées par de graves pénuries alimentaires dans le nord-est du pays, en proie aux violences du groupe islamiste Boko Haram, restent coupées de toute assistance, selon l'UNICEF. Le 1er juillet, l'organisation de l'ONU avait prévenu que 250 000 enfants de moins de 5 ans allaient souffrir de malnutrition sévère dans l'état de Borno cette année et que 50 000 risquaient même de mourir si rien n'est fait. L'ampleur de cette crise pourrait être encore pire.
Près de 60 civils, dont des enfants, ont péri aujourd'hui dans des raids de la coalition menée par les États-Unis près d'un village tenu par le groupe djihadiste État islamique dans la province d'Alep, en Syrie, selon une ONG. Nanit Talani pour les détails.
Au moins 56 civils, dont 11 enfants, ont été tués. Des dizaines d'autres civils ont été blessés, dont certains se trouvent dans un état grave, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui s'appuie sur un vaste réseau de sources médicales et de militants à travers le pays en guerre. Les habitants fuyaient les combats dans le village d'Altakar, dans la province d'Alep, quand les frappes ont eu lieu à l'aube, a indiqué Rami Abdel Rahman, directeur de l'ONG. C'est vraisemblablement une erreur, a-t-il dit, alors que les avions de la coalition visent les djihadistes dans et autour du village d'Altukar, situé à 14 km au nord de Minbej, un fief assiégé de l'État islamique par les forces arabo-kurdes syriennes anti-djihadistes. La coalition n'a pas commenté dans l'immédiat, mais a affirmé qu'elle vérifierait ces informations.
L'ambassadeur de Turquie à Athènes, Kerim Oras, a insisté aujourd'hui sur la nécessité de renvoyer rapidement en Turquie les 8 militaires turcs ayant fui par hélicoptère en Grèce après le coup d'État avorté du week-end dernier. Le contraire, dit-il, n'aiderait pas les relations bilatérales. Le diplomate a déclaré devant la presse qu'il fait entièrement confiance au système judiciaire grec. Les 8 militaires turcs ont demandé l'asile en Grèce dès samedi soir et ce mardi, ils ont eu leur première rencontre avec les services d'asile, a indiqué leur avocate à l'agence France-Presse.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié de très inquiétant les derniers tirs de missiles balistiques nord-coréens, a indiqué le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq. Pyongyang a mené ce mardi 3 tirs d'essai de missiles balistiques, une action que Washington a promis d'évoquer au Conseil de sécurité comme un nouveau défi aux résolutions de l'ONU.
Nous aurons tout à l'heure un segment spécial consacré à la convention du Parti républicain des États-Unis à Cleveland, mais disons que plusieurs délégués à cette convention accuse le président Barack Obama d'avoir ravivé les tensions en exprimant sa sympathie pour Black Lives Matter, le mouvement de protestation déclenché par une série d'incidents capturés sur vidéo, incidents où des policiers ont abattu des hommes noirs. Le président américain, il faut le dire, a toujours condamné les attaques perpétrées contre des policiers, comme récemment à Dallas, mais il a aussi dénoncé le mauvais traitement des minorités par certains éléments des forces de l'ordre. Donald Trump, lui, ne laisse aucun doute, il a promis d'être le président de la loi et de l'ordre, thème qui a dominé la première journée de la convention. Place maintenant à notre segment spécial sur la convention du Parti républicain.
Nicolas Pineau, vous vous trouvez à Cleveland où se tient la Convention nationale des Républicains et il y a une polémique qui persiste, celle de celle qui pourrait devenir la première dame des États-Unis tout autour de son discours. Dites-nous en plus.
Oui, malheureusement, pour les Républicains, on parle beaucoup du discours de Melania Trump, mais pas forcément pour les bonnes raisons, puisque celle qui deviendra peut-être la première dame des États-Unis en novembre prochain est tout simplement accusée de plagiat, et pas n'importe qui, un plagiat d'un discours de Michelle Obama. Michelle Obama, l'actuelle première dame des États-Unis, l'avait prononcé en 2008 lors de la convention démocrate, et ce discours portait notamment sur les valeurs transmises par les parents de Madame Obama. Et c'est vrai que tous les médias américains ce mardi passent en boucle les deux vidéos côte à côte. Et évidemment, on voit les mêmes mots quasiment utilisés. Pourtant, la campagne de Donald Trump réfute ces accusations. Paul Manafort, le directeur de campagne de Donald Trump, ce matin a vivement réagi et a estimé qu'il n'y avait aucune accusation de plagiat possible. Je vous propose de l'écouter.
Well, there's no cribbing of Michelle Obama's speech. These were common words and values that she cares about her family.
Eh bien, elle n'a pas plagié le discours de Michelle Obama. Elle a utilisé des mots communs et des valeurs communes pour parler de sa famille. Elle s'exprimait devant 35 millions de personnes. Penser qu'elle plagierait les propos de Michelle Obama est absurde. C'est un exemple de plus que lorsqu'une femme constitue une menace pour Hillary Clinton, cette dernière insinue des choses pour la rabaisser. Cela ne va pas marcher.
Voilà, c'était Paul Manafort, le directeur de campagne de Donald Trump.
Nicolas, la suite du programme d'ici jeudi?
Alors ce mardi, le thème c'est Make America Work Again, remettre l'Amérique au travail. On va suivre notamment le discours de Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants. On sait, il n'est pas vraiment fan de Donald Trump, mais il est là et c'est important de le noter. À suivre aussi Chris Christie, le gouverneur du New Jersey. On sait qu'il était sur la shortlist des personnalités qui pouvaient devenir vice-présidentiables. Le colissier de Donald Trump, il n'a pas été retenu. Eh bien, il va prononcer un discours ce soir ici au Quicken Loans Arena. Et on rappelle également que le grand moment, ce sera jeudi, le discours du candidat Donald Trump.
Revenons sur les discours d'hier soir avec Idrissa Seloudia.
Surprise à la convention républicaine de Cleveland, Donald Trump, rompant avec la tradition, est venu personnellement lundi soir au site de la convention. C'était pour présenter sa femme, Melania, qui devait prononcer un discours devant les délégués.
The next First Lady of the United States.
Une future première dame d'origine slovène, elle a vanté les mérites de son mari et le mouvement dont il est à la tête et qui a abouti à sa prochaine intronisation en tant que candidat du Parti républicain pour la présidentielle de novembre. Melania Trump a tenté de révéler au public un visage qu'il semble ignorer, celui d'un homme qui est dur quand c'est nécessaire, mais qui sait être tendre, comme peut en témoigner sa famille.
Donald intends to represent all the people.
Selon Melania Trump, son mari est pour tout le monde, chrétien, juif, musulman, africain, américain, asiatique, pauvre, classe moyenne, etc. En conclusion, elle a assuré que son mari est fin prêt pour diriger cette nation.
Donald J. Trump is ready to serve and lead this country as the next president of the United States.
Controverse déjà ici à Cleveland, où d'aucuns ont comparé le discours de Melania Trump à celui qu'avait prononcé en 2008 Michelle Obama en parlant des valeurs de son mari et aussi des valeurs que lui avaient inculquées ses parents, etc. Alors, c'est une affaire à suivre.
We must not be afraid to define our enemy.
Avant que Donald Trump ne bouleverse le programme en se présentant à la convention avant jeudi, la soirée baptisée Make America Safe Again, restituer à l'Amérique sa sécurité, avait été consacrée à des discours axés sur Benghazi et l'immigration illégale. Tous ces discours visaient assurément à montrer, vu tous les récents événements tragiques à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis et ailleurs, que tout cela était dû à la faiblesse de Barack Obama et d'Hillary Clinton, son ancienne secrétaire d'État, qui ont même peur d'utiliser les mots terroriste, islamiste, extrémiste. Idrissa Seloudia à Cleveland, dans l'Ohio.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. On passe tout de suite au magazine, la direction le Burundi. Dans une conférence de presse mardi, le ministre burundais des Relations extérieures a expliqué pourquoi le Burundi s'est retiré du sommet des chefs d'État de l'Union africaine de Kigali. Il est revenu sur la non-participation du gouvernement burundais aux négociations d'Arusha. Mais un des leaders de l'opposition signale que le pouvoir a raté une occasion en or de clarifier sa position par rapport aux questions de l'heure. Le point avec Christophe Kurundiza, notre correspondant à Bujumbura.
Le ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération est revenu sur la sortie de la délégation gouvernementale de ces deux réunions importantes pour la paix en Afrique, et en particulier pour le Burundi. Alain Aimé-Nyamitoué indique la raison qui a poussé le parti présidentiel et ses acolytes à sortir de la salle des conférences d'Arusha en Tanzanie.
Le gouvernement du Burundi a toujours dit, et le répète maintenant, que jamais il ne s'assiera avec des putschistes. Les préconditions existent. La délégation de gouvernement, suivie par d'autres, ont choisi de quitter les lieux de la conférence suite à la présence elle-même précédée par l'accréditation de deux individus qui sont sur la liste des mandats d'arrêt.
Pourquoi avoir boycotté le sommet des chefs d'État africains dimanche et lundi dernier, le ministre Alain Aimé-Nyamitoué?
La première raison, c'est qu'on a voulu donner un message à la Commission de l'Union africaine qui a fait la sourde oreille aux sollicitations légitimes de notre gouvernement par rapport à des agissements contraires aux standards internationaux qui interdisent aux États de se faire utiliser ou d'utiliser des éléments pour déstabiliser la sécurité et la quiétude d'autres États de l'Union. Deuxièmement, notre gouvernement avait demandé d'avoir des garanties de sécurité pour notre délégation ministérielle et présidentielle. Ces garanties ne sont jamais venues et nous avons estimé donc que ce n'était peut-être pas prudent de participer à ces assises à un niveau aussi élevé sans que ces garanties soient données.
Pontassien Sibomana, porte-parole du parti prenant, non reconnu par les autorités, le gouvernement burundais a raté une occasion pour défendre sa position.
Les institutions de facto de Bujumbura sont presque dans l'isolement total dans le concert des nations. Si j'étais à leur place, j'aurais applaudi des deux mains après avoir reçu l'invitation. Parce qu'en principe, ils ne devaient pas être invités dans des forums comme cela. Or, ils devaient profiter de l'occasion pour aller plaider pour son non-isolement. Dire toujours que c'est le Rwanda qui déstabilise le Burundi, qu'il a participé à la tentative de putsch, là aussi c'est une question qu'il essayait de bien motiver. Accuser le Rwanda constitue une fuite en avant pour échapper à la solution à la crise burundo-burundaise.
Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Le président français François Hollande a annoncé la semaine dernière le retrait prochain de Centrafrique de la force française Sangaris. C'est d'ailleurs fixé pour pas plus tard qu'octobre 2016, après 3 années d'intervention étrangère pour empêcher le chaos dans le pays. Comment les Centrafricains voient-ils l'annonce du retrait des forces françaises dans leur pays, encore instable, il faut le dire, sur le plan sécuritaire? On écoute Freeman Sibila.
Ici, dans les rues de Bangui, cette nouvelle ne surprend plus personne. Le commandement de Sangaris ainsi que des hautes autorités françaises l'avaient déjà annoncé, mais sans préciser de date exacte. Pour ces centrafricains, le retrait de la Sangaris ne fait ni chaud ni froid.
Moi, le problème de départ de Sangaris, ça me dit absolument rien. Mais ce que je demande, c'est qu'on enlève l'embargo, qu'on donne les armes au FACA, à l'armée centrafricaine, pour défendre le pays.
Ah, mais c'est une bonne chose. Je crois qu'ils ont perduré. Nous avons des forces intérieures, donc il faut que nos forces rentrent en action, donc c'est une bonne nouvelle.
Position soutenue par Gervais Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile centrafricaine. Il estime que les forces françaises ont contribué à la détérioration du climat sécuritaire en Centrafrique.
Tout le monde sait en Centrafrique que les Sangaris sont venus complexifier la crise centrafricaine. Et aujourd'hui, on leur demande de repartir en disant qu'ils ont accompli leur mission. Au contraire, rien d'intéressant n'est fait. Tout le monde constate que la situation sécuritaire en Centrafrique demeure. La force française déployée dans le pays au plus fort de la crise est intervenue à plusieurs reprises pour empêcher des violences ou neutraliser des groupes d'hommes armés hostiles à la sécurité des civils. Dans le milieu politique, l'on se réserve de tout commentaire, attendant de voir l'évolution de la situation. Ce fonctionnaire centrafricain qui a requis l'anonymat éprouve un sentiment de regret à l'annonce de la nouvelle du retrait des troupes françaises de Sangaris.
Il y a un sentiment de regret parce que n'eût été les efforts des éléments Sangaris, on ne pouvait pas avoir la stabilité sociopolitique actuelle. Ils se sont battus pour sauver depuis le 5 décembre. Grâce à eux, on a eu à barricader la route aux éléments des Seleka qui sémaient la terreur, qui faisaient des exactions de crimes atroces à l'égard de la population.
Fort de 2500 hommes, entre 2013 et 2014, aujourd'hui l'effectif de la Sangaris est réduit à au moins 500 hommes. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et un clash. Cap sur le Niger pour parler de la prise en charge des personnes atteintes du VIH-Sida. Le pays a un taux de séroprévalence de 0,4%. Au centre de traitement ambulatoire de Niamey, certains antirétroviraux sont insuffisants pour une catégorie de malades. Les responsables du centre lancent l'alerte dans ce reportage d'Abdoul Razak Idrissa.
Ce lundi matin, cette jeune patiente est venue au centre de traitement ambulatoire de Niamey pour prendre ses médicaments. Elle explique qu'elle est patiente de la deuxième ligne, c'est-à-dire ceux sur qui les premiers produits n'ont pas eu d'effet. Elle explique qu'avant, le centre mettait à leur disposition les antirétroviraux pour une période d'au moins 3 mois. La dernière fois, cependant, qu'elle est venue, elle n'a reçu que pour un seul mois. Ce matin, avant d'entrer chez le médecin, elle s'inquiète qu'il n'en soit pas ainsi aussi cette fois-ci. Depuis quelque temps, en effet, on parle d'insuffisance des molécules pour les patientes de cette deuxième ligne. Le président du réseau nigérien des personnes vivant avec le VIH-Sida interpelle les autorités sanitaires du pays. Aboubakar Al-Husseini Mega.
Nous ne pouvons nous adresser qu'aux autorités qui ont en charge la santé au Niger, particulièrement la coordination intersectorielle de lutte contre le sida. À ce que nous sachions, il y a suffisamment de ressources financières mobilisées dans ce pays aujourd'hui pour lutter contre le sida, qui normalement, jusqu'en 2018, ce genre de problème, on ne devait même pas les entendre.
Le responsable du centre indique que le stock des produits insuffisants peut tenir jusqu'en septembre prochain. Il ignore cependant si une nouvelle commande a été lancée, même s'il a fait son devoir, celui d'informer la hiérarchie. Docteur Nuhu Yakuba.
Les patients, pour l'instant, ils ont ce qu'ils veulent de nous, mais il y a quelques difficultés des médicaments, donc il y a certaines molécules qu'on n'y en a pas assez. C'est vrai, on ne peut pas parler de rupture, mais si on ne fait pas attention, peut-être on tend vers là. Les responsables de prise en charge du ministère de la Santé sont informés de cette insuffisance-là. Je pense qu'ils aussi, à leur niveau, ont remonté l'information. Maintenant, les partenaires, bon, peut-être ils sont au courant, mais dans ce qui est sûr, il y a des autorités au-dessus de nous qui sont chargées vraiment de bien mener ce dossier-là.
Abdullah Razak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le FMI a nettement abaissé ses prévisions de croissance économique en Afrique subsaharienne et a mis en garde sur les effets d'un ralentissement susceptible d'accroître la pauvreté. L'économie ne devrait progresser que de 1,6% cette année, marquant un ralentissement spectaculaire de 3,3% par rapport à 2015. Les transporteurs en partance de Douala au Cameroun pour le Tchad et la Centrafrique réaliseront désormais leurs opérations en ligne avant le départ pour gagner du temps. Ce nouveau dispositif a été mis en place par le guichet unique du commerce extérieur et le bureau de gestion du fret terrestre. Le patronat ivoirien lance ce mardi le projet d'incubateur pour jeunes entrepreneurs, un projet qui accompagne 200 jeunes, dont 30% de femmes. Bénéficiant $1 million de la Banque africaine de développement, le Prodige cible notamment les secteurs de l'industrie, des TIC, des BTP et de l'agroalimentaire à Abidjan, Bouaké, San Pedro et Korogo.
L'actualité sportive ce soir, c'est avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors, faut-il parler de volte-face? L'entraîneur français Paul
Le Guen
ne sera finalement pas conseiller technique de la sélection du Nigeria.
Oui, c'est ce qu'annonce la Fédération nigériane de football qui avait pourtant officialisé lundi la venue du technicien français qui aurait refusé un contrat juste avant sa signature. Nous n'avons jamais dit que Le Guen avait obtenu le poste. C'est justifié tant bien que mal la fédération dans un communiqué. Paul Le Guen, âgé de 52 ans, devait superviser la sélection avec l'assistance du Nigérian Salisu Youssouf, qui aurait lui aussi été entraîneur en chef. Il aurait eu pour objectif de qualifier, vous voyez, tout est au conditionnel, de qualifier donc les Super Eagles pour la Coupe du Monde 2018 en se sortant d'un groupe difficile constitué de l'Algérie, du Cameroun et de la Zambie. Donc il va falloir attendre encore pour que tout ça soit mis au clair.
Et parlant des Anglais de Leicester, Bagassi, on dit que l'appétit vient en mangeant.
Oui, c'est en Angleterre. Hein. Leicester, champion en titre de la Premier League, aimerait rebelloter. Gagner deux fois, c'est un rêve, a avoué l'entraîneur italien Claudio Ranieri à 3 semaines de l'ouverture de la Premier League, c'est-à-dire le 13 août prochain. Ranieri est champion surprise de Premier League avec Leicester la saison passée. Dans un entretien accordé mardi au journal britannique The Sun, il assure que la pression n'est pas sur son équipe, mais sur les grands clubs de Premier League privés de titres ou de la Ligue des Champions, à l'instar de Liverpool ou de Chelsea, respectivement 8e et 10e lors du dernier exercice.
Et quand nous disons Super Mario en football, ça veut dire une seule chose, ou plutôt une seule personne, Bagassi. On ne l'a pas vu lors du dernier Euro, on pourrait le revoir au sein de la Nationale.
Oui, c'est Mario Balotelli, et lui, le nouvel entraîneur Gampiero Ventura de l'Italie, donc présenté ce mardi à la presse, a laissé la porte entrouverte à Mario Balotelli, comme qu'on n'a pas vu lors du dernier Euro. Le transfert de Grangialo Pelé, notre joueur italien qui a participé à la réussite de son équipe jusqu'en quart de finale de l'Euro au Shandong Luneng en Chine, pourrait libérer une place à la pointe de l'attaque de la nationale et favoriser un éventuel retour de l'enfant terrible de Palerme. À part son pénalty manqué, le parcours de Pelé à l'Euro est positif, mais la Chine, c'est très loin, nous verrons, à éluder Ventura. Balotelli, il faut le dire, est à la croisée des chemins, a estimé Gianpiero Ventura, 68 ans, jugeant qu'il peut faire mieux, beaucoup mieux. Le peu de fois où Balotelli a réellement voulu être footballeur, il a démontré ses qualités.
Voilà pour les sports. Merci Bagassi Koura.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la console, Wagner Robert. Présentation, Tatiana Mosso et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Disons un grand merci à nos plus d'1 250 000 fans sur Facebook. On maintient la conversation, bien sûr. Dites-nous ce qui domine l'actu chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.